Europe Midi, Simon Rubin.
Bonjour à toutes et à tous, il est midi et demi, bienvenue dans votre journal de la mi-journée.
L'ancienne manifestation, c'était vraiment l'anarchie. Hein. Vraiment, si c'est la même chose, on va fermer. Hein. On fermera, hein, par sécurité.
Avant la manifestation pro-palestinienne à Paris, autorités et riverains, vous l'entendez, sont inquiets de débordements possibles. Les organisateurs maintiennent leur appel à manifester malgré l'interdiction des autorités. Au départ du rassemblement, les commerçants sont invités à fermer boutiques. Et tout cela tandis que de nouvelles frappes israéliennes ont eu lieu à Gaza cette nuit. Pour comprendre ce qui se joue en ce moment au Proche-Orient, mon invité après ce journal, Vincent Lemire, historien, directeur de Centre de Recherche Français à Jérusalem. La traquée est terminée dans les Cévennes. Après plus de 3 jours de fuite, le principal suspect d'un double meurtre s'est finalement rendu. Vous entendrez le général Réti, commandant du GIGN, raconter la fin de cette traque. Vous utilisez WhatsApp pour échanger avec vos enfants, amis, parents. Eh bien attention, à partir d'aujourd'hui, vos données personnelles seront encore davantage exploitées. Le foot, la conclusion de la saison de Ligue 2, Clermont tout proche d'une première montée en Ligue 1. On verra ça avec Jean-François Pérez à la fin de ce journal. Et puis météo complète, le temps instable et orageux. Côté température, on est en dessous des normales de saison.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Des avions ont de nouveau frappé Gaza cette nuit, concluant une nouvelle journée de violence en Cisjordanie. 10 membres d'une même famille, 8 enfants, 2 femmes ont notamment été tués, annoncent des secours palestiniens. Depuis lundi, le bilan des victimes palestiniennes s'élève à 126 morts, dont 31 enfants du côté d'Israël. 9 personnes ont été tuées, dont un enfant et plus de 560 blessés. Et c'est donc dans ce contexte que vont se tenir plusieurs manifestations de soutien au peuple palestinien. Elles ont déjà commencé du côté de Metz, Toulouse ou encore Montpellier. Et c'est prévu à Paris sur les coups de 15h, Mathieu Bock. Manifestation pourtant interdite hein, par les autorités qui craignent des débordements.
Oui, ici à Barbès, les policiers sont d'ailleurs très nombreux à quadriller le quartier. Plusieurs dizaines de camionnettes de CRS et de gendarmes mobiles ainsi que des camions avec des lances à eau sont répartis dans les rues autour de Barbès. La préfecture a demandé aux commerçants de fermer cet après-midi pour éviter les risques redoutés par cette manifestation, comme Slimane qui tient une boulangerie.
Je suis en train de préparer de fermer là. Alors j'ai rien préparé pour la vitrine.
Donc, parce que vous pouvez fermer dans 1 heure, 2 heures, 3 heures quoi.
Peut-être 1 heure, 2 heures au maximum.
Mais beaucoup de commerçants n'ont pas reçu ce message de la préfecture et prévoient tout de même de fermer également.
Jusqu'ici, on n'a reçu aucun message. Donc jusqu'ici, nous attendons encore que les autorités nous fassent. S'il n'y a pas de message officiel, nous sommes des commerçants. Nous voulons travailler dans tous les cas. Donc, nous avons déjà beaucoup perdu. Si ça ne dépendait que de nous, nous restons travailler. Mais en principe, si dans le cas contraire, si vraiment la manif ça bouge, nous serons obligés de fermer.
On va voir s'il y a du monde, on ferme direct. Hein,
Pas d'hésitation.
Voilà, pas d'hésitation, exactement. C'est ça. Voilà, on verra, on va voir. On va sûrement, je pense qu'on va fermer.
Alors l'avocat des organisateurs que nous avons pu joindre nous a expliqué travailler en ce moment même sur un recours en urgence afin de maintenir légalement, c'est son souhait, la manifestation comme prévu à 15h.
Mathieu Bock en direct de Barbès à Paris et puis on parlera après ce journal de la situation en Cisjordanie, hein, je le rappelle avec Vincent Lemire, historien, directeur du Centre de Recherche Français à Jérusalem. Excusez-moi, je me rends, voilà les premiers mots du principal suspect de ce double meurtre dans les Cévennes. Lorsqu'il s'est rendu hier. Après plus de 3 jours de traque, le général Réti, commandant du GIGN, était l'invité de Pierre Devineau ce matin, 8h15, et il raconte la fin de cette chasse à l'homme.
5 minutes avant sa reddition, les forces de l'ordre avaient détecté sa cache. Maintenant, on connaît bien le profil de l'individu. On savait que ce n'était pas forcément un survivaliste. Donc, on savait qu'il ne pouvait pas non plus tenir des jours comme ça en forêt. Le plus gros soulagement, c'était bien évidemment le dénouement. L'individu est interpellé vivant, donc il est actuellement en garde à vue. Ce qui permettra, je pense, aux familles et aux proches d'avoir un procès et de comprendre ce qui s'est passé dans la tête de Monsieur Marcon.
Un peu de soulagement pour les familles des victimes, soulagement aussi pour les habitants du périmètre dans lequel était recherché ce fugitif. Le reportage de Stéphane Frangy.
Sur la place du village de Somane, à quelques kilomètres à peine de la zone de recherche, Virginie, une touriste, commence à peine à profiter de vacances qui ont plutôt mal commencé.
On a eu peur, on est venu pour passer du bon temps et sortir du confinement. Finalement, c'était un peu la guerre autour de nous. C'était anxiogène, fermé, les volets fermés dans la maison, c'était spécial. Puis là maintenant, oui, on est rassurés. Les enfants, ils ont crié de joie, ils étaient tout contents, ils disaient « bon, on peut sortir maintenant ».
Et dans le village du Plantier, sous protection militaire, des habitants sont sortis spontanément hier soir de chez eux, témoigne le maire Bernard Mounier.
Ils se sont regardés avec des larmes dans les yeux, ils se sont embrassés et les mots vont peut-être émerger demain ou après-demain, mais pour le moment on est dans l'émotion, dans le silence, dans le réconfort, le soulagement. La peur s'éloigne, mais je crois qu'au travers de ces regards-là, on sent aussi la perspective d'un devenir un peu plus compliqué.
Car dans ce village de 259 habitants, il va falloir réconcilier famille et amis des victimes d'un côté et l'entourage de Valentin Marconne de l'autre. Saint-Jean-du-Gard, Stéphane Frangy, Europe 1.
Promesse bientôt tenue conformément aux objectifs que s'était fixé l'exécutif. Le seuil des 20 millions de doses de vaccins injectés devrait bien être atteint ce soir. Le Premier ministre Jean Castex l'a d'ailleurs redit ce matin. 20 millions de primo-injections. Parallèlement, le nombre de malades du Covid-19 dans les services de réanimation continue de baisser. Situation sanitaire qui s'améliore, taux de vaccination qui progresse. Voilà le contexte pour pourquoi pas s'offrir un séjour de détente qui sonnerait comme un prélude avant la réouverture des bars et restaurants. En ce pont de l'Ascension, on vous propose ce midi de partir pour les bords de Loire. Beaucoup de touristes ont d'ailleurs fait ce choix ce week-end et les loueurs ont été quelque peu pris de court. Reportage à Blois avec Nicolas Feldman.
On s'est fait déborder absolument. Ouais, on n'a pas vu venir le nombre de personnes qui voulaient s'aérer la tête suite au Covid.
L'emplacement est stratégique. À 2 minutes à pied de la gare de Blois, Cédric, gérant de ce magasin de location de vélos, s'est fait dévaliser.
Bah, tout mon stock est parti, à savoir 70 vélos.
Voilà. C'est du déjà vu ?
Non. Sur un week-end comme ça, non. C'est vraiment les Parisiens qui ont besoin de souffler, de sortir de cette situation à Paris pour voir un peu la Loire à vélo et profiter. Du beau temps, actuellement, pas possible, mais du grand air, on va dire.
Un peu plus bas, sur les bords de Loire, ces trois amis sont passés entre les gouttes. Résultat, 2 heures de balade avec les châteaux en toile de fond.
Ça sent bon, ça sent juste la nature et ça fait longtemps qu'on n'a pas expérimenté la chose. Sinon, on a vu les vignes. Qu'est-ce qu'on a vu d'autre ?
Si, on a vu un hérisson cendré quand même. Ah, faut pas l'oublier, le pauvre.
Donc, bilan ?
Positif parce qu'il a plu presque tout le temps, sauf quand on a pris le vélo. Donc, nickel. Ressourcé.
Ouais, c'était super. Non, ça fait du bien, vraiment.
Sur les bords de Loire, Nicolas Feldman, Europe 1.
Europe Midi, Simon Rubin.
On marque une pause dans ce journal et dans un instant, on va parler de WhatsApp. Vous savez, c'est cette application sur téléphone qui a détrôné le SMS, mais qui va, attention, encore davantage utiliser vos données personnelles à partir d'aujourd'hui. Et c'est un changement loin d'être anodin.
Simon Rubin vous informe sur Europe 1.
Midi 39, à partir d'aujourd'hui, les nouvelles règles d'utilisation de l'application WhatsApp entrent en vigueur. WhatsApp a un appli incontournable pour s'échanger messages et vidéos et qui a presque supplanté le bon vieux SMS. Mais voilà de nouvelles règles d'utilisation qui débarquent et avec elles leur lot de questions. Alors avant d'en parler avec mon invité Clément Le Saffre, de quoi s'agit-il ?
Alors ça restera une application de messagerie. Sur ce point, pas de changement. Les messages seront toujours chiffrés et Facebook ne pourra pas les lire. En revanche, la mise à jour va ajouter des fonctionnalités commerciales pour lier WhatsApp aux autres services du réseau social. Par exemple, une publicité sur Instagram pourra afficher un bouton WhatsApp pour que l'internaute puisse contacter le service client de la marque directement. Et si vous avez un compte Facebook, ces publicités seront ciblées en fonction de vos recherches en ligne. Les nouvelles conditions d'utilisation vous seront soumises une fois l'application mise à jour. Vous pouvez les refuser, mais vous n'aurez plus accès à votre liste de discussion pour lire et répondre à un message, il faudra forcément activer les notifications et vous pourrez répondre aux appels mais pas en passé. Puis, après quelques semaines, vous ne recevrez plus ni appel ni message. Votre compte existera toujours mais l'application vous sera inutile.
Voilà pour les explications et on a posé le contexte avec vous Clément Le Saffre. Bonjour Bastien Lequérec.
Bonjour.
Vous êtes juriste, spécialiste de droit public, membre de la Quadrature du Net. Alors, on a écouté ce que disait notre journaliste. Si on refuse les nouvelles conditions d'utilisation, on garde son compte, mais alors le WhatsApp deviendra une espèce de coquille vide. C'est légal, là, tout ça ?
Tout ça, c'est à moitié légale, c'est-à-dire que contractuellement, WhatsApp peut imposer ces conditions. En revanche, il y a ici un véritable problème dans le respect de la législation européenne sur la protection des données, parce que on ne peut pas accéder à ce service sans consentir, avec des gros guillemets, à ce que ces données personnelles soient exploitées à des fins commerciales, ce qui est contraire aux droits de l'Union européenne en matière de protection des données.
Elles deviennent quoi d'ailleurs nos données là dans ce cas précis? Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qu'on risque, j'allais dire, de plus?
L'objectif de WhatsApp, c'est de monnayer la vie privée et de construire un modèle économique sur la violation de la vie privée des utilisateurs et utilisatrices de l'application. Ici, les nouvelles conditions ne vont pas changer. Le principe de WhatsApp reste le même. WhatsApp est une filiale de Facebook, et comme Facebook, l'objectif est de récupérer le plus de données personnelles pour avoir le plus d'informations sur l'intimité des personnes. En revanche, ici, ce qui est vraiment dommage, c'est que les autorités publiques n'agissent pas. C'est très difficile souvent de quitter ce genre d'application, et ici, les autorités européennes, françaises, n'agissent pas, alors que WhatsApp viole délibérément la vie privée des utilisateurs et utilisatrices de ce réseau.
Il existe des alternatives à WhatsApp, si on veut là se dire « allez, j'arrête, je change ».
Il existe un certain nombre d'alternatives, mais le problème, c'est que WhatsApp a un contrôle total sur la communauté. Si on part de WhatsApp pour changer d'application, on se coupe de ses contacts. Et c'est là où la solution individuelle a des limites très importantes. C'est que souvent, on ne peut pas se permettre de se couper de ses amis, de ses collègues, d'étudiants. Et c'est là où l'impasse dans laquelle on est, les pouvoirs publics ne réagissent pas, la CNIL française, ne réagit pas. On a un système européen de plaintes collectives où tout ça finit en Irlande et au bout de plusieurs années, on n'a toujours pas de nouvelles. Donc aujourd'hui, le droit en théorie, il serait suffisant pour protéger, pour empêcher ce genre de pratiques. Mais dans les faits, c'est très compliqué parce qu'il y a une absence de volonté politique de faire bouger les choses sur ce point-là.
Eh bien, merci beaucoup, Bastien Lequérec, je rappelle, juriste en droit public, membre de la Quadrature du Net, de nous avoir éclairé sur ces nouvelles conditions d'utilisation de WhatsApp. Merci à vous. Le football et le sport, c'est le dénouement de la saison de Ligue 2 ce soir, 38e et dernière journée de championnat. Alors on sait que 3 terminera premier, mais une autre place est à prendre pour grimper directement en Ligue 1. Alors a priori, ce sera Clermont, ce serait d'ailleurs une première, et Jean-François Pérez, les supporters, eux, ils ont déjà les deux pieds en Ligue 1, ça c'est sûr.
Oui, des supporters qui se sont exceptionnellement donné rendez-vous à l'entraînement des joueurs jeudi matin. La veille, Toulouse avait fait match nul et propulsé quasiment les Auvergnats dans l'élite. Tous les observateurs de la Ligue 2 vous le diront, c'est 1000 fois mérité. Symbole de cette réussite, l'entraîneur auvergnat Pascal Gastien, il a fait du Clermont Foot l'une des équipes les plus séduisantes du foot français.
On a mis un projet de jeu tous ensemble en place et les joueurs adhèrent. On a envie de montrer une belle image de la ville, de notre football déjà, du club. Et puis ça rejaillit sur la ville aussi.
Meilleure défense et de loin, deuxième attaque grâce notamment au meilleur buteur de la Ligue 2, Mohamed Bayo. Clermont récolte les fruits d'une politique ambitieuse et raisonnée. Le club ne possède que le 11e budget de Ligue 2, mais le noyau de joueurs est stable et les jolis coups sur le marché des transferts font des envieux. Seul chantier encore inachevé, le stade, indigne de la Ligue 1. S'ils valident ce soir leur accession, les Clermontois pourraient élire domicile provisoire à Saint-Étienne.
Et les matchs clés de cette soirée de Ligue 2 à suivre autour de Lionel Rosso sur notre antenne Europe 1 Sport à partir de 20h. La Chine a posé une première roue sur Mars et même les 4 roues puisqu'elle a réussi à poser un petit robot téléguidé à la surface de Mars. Une première pour le pays. Russes, Américains, Européens sont dans le passé, se sont cassés les dents à tenter pareille opération. Eh bien, les Chinois ont réussi en une seule tentative tout ce que les Américains ont réalisé, eux, en plusieurs missions dans les années 60 et depuis les années 60. Écoutez Isabelle Sourbès-Verger, elle est directrice de recherche au CNRS, spécialiste de l'occupation de l'espace et des politiques spatiales au Centre Alexandre Coiré.
C'est la première fois que la Chine tente une mission martienne et elle a réussi à la fois la mise en orbite, ce qui est déjà relativement compliqué, mais surtout le fait d'être capable de poser l'atterrisseur. Donc c'est vraiment un très beau succès technologique. Après, la mission américaine fait voler un petit hélicoptère sur Mars. Donc il y a encore une avance importante des États-Unis, mais là, la Chine s'inscrit vraiment dans le club des 3 ou 4 grandes puissances spatiales dans le domaine de l'exploration actuelle.
Isabelle Sourbès-Verger, directrice de recherche au CNRS, au micro de Romain Hougue. C'est la fin de ce journal. Reste à voir la météo. Avec vous, Valérie Darmon, bon, c'est pas folichon.
Effectivement, les nuages ne cessent de grossir et de s'épaissir en plus au fil de l'après-midi. Ils génèrent quelques giboulées, parfois accompagnées d'orages sur la moitié nord à partir de maintenant. Orages plus fréquents en Normandie, dans les terres et au nord du bassin parisien. Bretagne, Charente, vous restez au sec, mais vous perdez de la luminosité cet après-midi. Au sud, la pluie persiste, faible et continue depuis la Nouvelle-Aquitaine à l'Alsace. Vous êtes protégé sur le bassin méditerranéen. Le vent souffle modérément sur une grande partie de la France, jusqu'à 70 km/h près de la Manche et de l'Atlantique. Les températures ne changent pas, elles sont stationnaires. Elles varient entre 13 et 18 degrés en général, entre 17 et 24 sur le sud-est, avec 24 annoncés dans la région de Montpellier.
Merci Valérie Darmon.
Europe Midi, Simon Rubin.
Allez, on marque une nouvelle pause et on se retrouve pour parler d'un sujet extrêmement complexe qui a fait la une quasiment toute cette semaine. Israël, Palestine, pourquoi ce retour d'une violence débridée? Quels enjeux pour la région? Quelles perspectives? On en parle avec Vincent Lemire, historien, directeur du Centre de recherche français à Jérusalem. A tout de suite.
Europe Midi. Simon Rubin.
12h49 sur Europe 1, place à mon invité. Des avions ont de nouveau frappé Gaza cette nuit, concluant une nouvelle journée de violence en Cisjordanie. Des bilans terribles, 126 morts, dont 31 enfants du côté des Palestiniens. Côté de l'État hébreu, on en est à 9 personnes tuées, dont un enfant, plus de 560 blessés. Mon invité aujourd'hui, Vincent Lemire, historien, directeur du Centre de recherche français à Jérusalem. Bonjour.
Bonjour.
Alors, je précise tout de suite, vous êtes en direct de Jérusalem, d'où ma première question. Quelle est l'ambiance, l'atmosphère dans cette ville que vous connaissez si bien?
Écoutez, pour ce qui est du front de Jérusalem, on a une relative accalmie depuis mardi, qui était assez prévisible, hein, puisque depuis lundi soir, mardi, on a le front de Gaza qui s'est ouvert. Et puis ensuite, on a le troisième front des villes mixtes, hein, des affrontements dans les villes mixtes, Lod, Saint-Jean d'Acre, Jaffa. Et puis hier, dans la journée de vendredi, les tensions sont remontées un petit peu à Jérusalem, en même temps qu'elles sont remontées aussi en Cisjordanie, du côté d'Hébron, Naplouse, etc. Voilà, cette nuit, il y a eu à nouveau des affrontements du côté de Sheikh-Jarrah, dans ce fameux quartier de Jérusalem-Est où des colons juifs cherchent à s'implanter. Donc on est dans un plateau, pour reprendre cette expression de l'épidémiologie, on est dans un plateau très très élevé de niveau de tension. Mais pour ce qui est de Jérusalem, hein, c'est à peu près stable depuis mardi.
On avait plus vu des scènes de guerre de la sorte entre Israël et Palestine depuis des années. Pourquoi ce retour de la violence ainsi, Vincent Lemire?
Alors déjà, pour qualifier le niveau de violence, effectivement, il y a quelques jours, on disait 2014, parce qu'effectivement, la dernière grosse confrontation militaire avec Gaza, c'est 2014. Par contre, le niveau de violence à Jérusalem... Et surtout, les scènes d'émeutes, de lynchages, de pogroms, de ratonnades dans tous les sens dans les villes mixtes, ça, on n'avait jamais vu, littéralement jamais vu, y compris pendant la deuxième intifada. C'est-à-dire que pendant la deuxième intifada, il y avait des affrontements très importants entre les communautés palestiniennes, les Palestiniens d'Israël, mais c'était contre la police et les forces militaires. Là, ce sont vraiment des affrontements intercommunautaires qui sont évidemment beaucoup, beaucoup plus difficiles à canaliser. Alors pourquoi? Vous posez la bonne question. Ça faisait plusieurs semaines, hein, quand même, que les observateurs disaient que ces 8 jours allaient être terribles. Hein. C'est la fin du Ramadan. Lundi 10, c'était le jour de Jérusalem, où Israël doit célébrer sa reconquête de la ville sainte. Avant-hier, c'était l'Aïd. Et aujourd'hui, c'est la célébration de la Nakba. Hein. On est le 15 mai. Et donc, pour les Palestiniens, c'est la commémoration de ce qu'ils appellent la catastrophe, hein, c'est-à-dire la perte des terres au moment de la création de l'État d'Israël. Donc vous imaginez, en 8 jours, on a une espèce de court-circuit des calendriers. Si on y ajoute le fait qu'on n'a pas de leadership politique ni en Palestine ni en Israël en ce moment, évidemment vous avez un cocktail totalement explosif.
Est-ce qu'on assiste aux prémices d'une guerre civile?
Alors, ça, c'est un terme que le président israélien a utilisé hier, je crois, ou oui, dans une conférence de presse. Il a dit il y a un risque de guerre civile. Moi, je voudrais être très bon. Je suis historien, donc je veux dire une guerre civile, c'est pas on n'en est pas encore là. Une guerre civile, c'est quand il faudrait en particulier que les armes à feu soient de sortie. Hein. Vous savez qu'en Israël, 40% des hommes adultes sont armés. Ils sont armés et ont des munitions. Or, on a vu très très peu d'armes à feu. Pour l'instant, on est dans des affrontements terribles, d'une violence effroyable, mais on est dans des pierres sur des voitures, des barres de fer, des lynchages, des coups de poing, des cocktails Molotov. Donc c'est terrible, ça fait y compris des morts. Hein. Il y a un enfant arabe de Jaffa de 12 ans cette nuit qui était dans sa maison, dans sa chambre, et qui a été brûlé au troisième degré par un cocktail Molotov. Il est dans le coma. Donc je suis pas du tout en train de dire que c'est pas atroce. Je dis juste que une guerre civile, c'est encore autre chose, et que ça pourrait arriver. Oui, ça pourrait arriver parce qu'on est dans une société qui est armée. Mais pour l'instant, les armes à feu restent à la maison.
Quel est le paysage sociopolitique ? Vous parliez de l'absence de leadership politique d'un côté comme de l'autre, qui avait notamment amené à la situation qu'on connaît. C'est quoi le paysage aujourd'hui ?
Alors, le paysage du côté palestinien, c'est les élections palestiniennes qui ont été annulées par Mahmoud Abbas quelques jours avant cette explosion de violence. Donc, il y a évidemment un rapport de cause à effet. Pourquoi ? Parce que le Hamas, en fait, espérait beaucoup de ces élections. Hein. Il espérait pouvoir faire un bon score et notamment corneriser un petit peu plus le Fatah. Donc ça, c'est du côté palestinien. Il n'y a pas eu d'élection depuis 15 ans. Mahmoud Abbas est totalement décrédibilisé. Et en plus, les élections ont été annulées. Du côté israélien, mercredi dernier, il y a 10 jours, Benjamin Netanyahou a perdu son mandat pour rassembler une coalition, parce qu'il avait eu 30 jours et il n'a pas pu le faire. Donc il ne restait que ministre en exercice, mais vraiment sur le départ. Et on nous annonçait une nouvelle coalition autour de Yair Lapid, centriste, avec Bennett, droite nationaliste, et avec le soutien d'un petit parti islamiste modéré, élu justement par les Palestiniens d'Israël, par les Arabes israéliens. Évidemment, ce projet de coalition alternative a explosé en vol, parce que Bennett, la droite nationaliste, ne peut plus s'allier avec un parti islamiste modéré dans le contexte actuel. Et donc, Netanyahou retrouve d'une certaine manière un leadership provisoire, celui qu'il apprécie le mieux. Il est chef de guerre. Et celui qui était son opposant il y a quelques jours, Benny Gantz, redevient son ministre de la Défense aujourd'hui.
Dernière question sur l'avenir, sur l'horizon maintenant qui se dresse devant nous. Est-ce qu'on ose à peine dire ces mots, un processus de paix est-il encore possible et dans quelles conditions ?
Non, en fait, vraiment, effectivement, processus de paix, c'est un terme qui est vraiment complètement... complètement en dehors du scénario. La guerre de Gaza va se terminer. Est-ce qu'elle va se terminer dans quelques jours, dans quelques semaines ? On ne le sait pas, mais elle va se terminer. On connaît le scénario. Hein, faute de combattants, faute de munitions, le Qatar va petit à petit commencer à faire sa médiation avec l'Égypte, etc. Et on va avoir un cessez-le-feu. La guerre de Gaza va se terminer. Par contre, ce qui a tout déclenché, c'est-à-dire Jérusalem et ensuite les explosions de violence dans les villes mixtes, il faut quand même rappeler que 20% de la population israélienne est d'origine palestinienne. Ça, pour le coup, ça ne va pas se terminer de sitôt. Et c'est plutôt ce qui inquiète le plus les observateurs ici, des deux côtés. Tout le monde dit Gaza, c'est horrible, c'est terrible, mais on sait comment ça va se finir. Alors que Jérusalem et les villes mixtes, on ne sait pas où ça va aller, on ne sait pas combien de temps ça va durer.
Et un enjeu social, sociétal même pour Israël et pour toute la région. Merci beaucoup Vincent Lemire, historien, directeur du Centre de recherche français à Jérusalem, auteur entre autres de Jérusalem, histoire d'une ville monde, des origines à nos jours, c'est chez Flammarion. Merci à vous.
Merci.
12h57 sur Europe 1, et vous le savez, juste après 13h, tout terrain, l'émission des reporters d'Europe 1 avec Fabienne Lemoyle. Aujourd'hui, alors programme un peu spécial, on vous emmène dans les coulisses de nos programmes. On sera avec Pascal Clard, comment ça se passe en balade avec. On sera aussi avec les équipes des podcasts et d'Europe 1 Studio. Joli programme, à tout de suite.